Nous allons continuer notre étude. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, grâce à des bonnes choses d'ailleurs. Shavuot, Yom Yerushalayim et tout le reste. Mais enfin, le moment est venu de s'y mettre. Voilà. Donc, je vous invite à retrouver le texte du Likutei Moharan. Nous sommes toujours dans la Torah appelée Anochi Hashem Elohecha, qui est la quatrième du Likutei Moharan. Voilà. Et nous arrivons tout de suite, ben c'est génial, Yaakov a trouvé tout de suite l'endroit, Habechina Shelishit. Alors bon, alors ici on doit rappeler un peu de quoi il s'agit, rafraîchissons un peu notre mémoire. Alors rappelez-vous que Rabbi Nachman de Breslav veut interpréter le verset Anochi Hashem Elohecha. Je suis l'Éternel ton Dieu, et la manière dont il lit ce verset, c'est la suivante. Je suis le même quand je suis Hachem ou quand je suis Elohecha. C'est-à-dire, quand je suis Hachem, ça s'appelle Midat Harachamim, la miséricorde, ou quand je suis Elohecha, c'est-à-dire la Midat Hadin, la rigueur, en fait, c'est toujours le même Dieu qui se révèle à travers les deux dimensions. Quand la Mishnah dit dans le traité de Megillah que si quelqu'un dit dans la prière, Al Tov Yizacher Shemecha, c'est quand tu fais le bien que ton nom est mentionné, alors on fait taire celui qui dit ce texte. On ne peut pas dire que Dieu est mentionné uniquement quand il nous fait du bien, également quand il nous fait du mal. Quand il y a l'exercice de la Midat Hadin, tout cela est une manifestation de la même divinité, de la même volonté. Anochi, c'est toujours moi, Hachem, qui est Elohecha. Voilà, ça c'est le grand principe que Rabbi Nachman nous explique dans ce. On continue, donc on en était à cette histoire des lettres. Les lettres sont l'expression d'une volonté. Quand je dis Aleph, c'est une volonté. Quand je dis Bet, c'en est une autre. Quand je dis Aleph Bet, ça donne le père, Av. Par exemple, ce sont deux volontés qui se sont conjonctées, qui sont devenues une volonté. Donc en fait, on peut dire que chacun de nous, nous sommes une sorte de volonté. Et cette volonté, après, elle peut être mauvaise. Alors, quand on fait des péchés, alors on a également les lettres du péché qu'on a fait, elles sont inscrites dans nos os. Et donc, faire teshuva, c'est faire sortir les lettres de l'os. Alors, faire sortir des lettres, les lettres, c'est de la parole. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller parler de ces problèmes un sage, un Talmid Chacham. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Rien à voir, on avait, je pense, bien expliqué ça la dernière fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la confession chez les goyim, parce que la confession chez les goyim fait partie de ce qu'on appelle l'expiation. Tandis que chez nous, c'est pas du tout ça, c'est une sorte de traitement psychologique. Or, le traitement psychologique passe par le fait de se débarrasser de ces lettres. C'est comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces lettres? Eh bien, il faut se débarrasser des mauvaises midot. Les mauvaises midot sont liés aux quatre éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre, qui se traduisent également comme étant la terre correspond au minéral, l'eau correspond au végétal, l'air correspond à l'animal et le feu à l'humain. Et pour se débarrasser disons, des mauvaises midot qui sont liées à cela, c'est-à-dire les mauvaises midot, la paresse et la tristesse sont liées à la terre. Et les passions, les mauvaises passions, les pulsions sont liées à l'eau, et les mauvaises paroles sont liées par le mensonge, la médisance, ça c'est lié à l'air, et l'orgueil et la colère, c'est lié au feu. Voilà, ça ce sont des principes tirés des enseignements du Hari. Et il faut, pour s'en débarrasser, passer par trois phases pour se débarrasser de ces mauvaises midot. La première étant de voir le tzaddik, la deuxième étant de donner de la tzedaka dans la caisse qui est gérée par le tzaddik, et la troisième, c'est de lui parler. Alors, ce que nous a expliqué Rabbi Nachman jusqu'à présent, là je rappelle simplement des choses que nous avons étudiées dans les derniers cours, c'est que quand je vois le tzaddik et quand je donne la tzedaka pour le tzaddik, dans ces deux premières actions, je me libère des quatre clipotes. C'est-à-dire, en voyant le tzaddik, j'arrive à dominer tout ce qui est lié au minéral et au végétal. c'est-à-dire la tristesse et les pulsions. Quand je donne la tzedaka, c'est alors que je me libère de la médisance, du mensonge et de l'orgueil. Et après, je dois parler avec le tzedek. Ça, c'est ce qu'on appelle, et là, c'est qu'on arrive aujourd'hui au texte que nous a amené Yaakov, Abichina Hashilishi. Le troisième aspect. Keshemidvadim, vidui devarim lifnet anitracham. Lorsqu'on l'on vient raconter par la parole ce qu'on a fait, on vient le raconter au tanitracham. Shaliedeze, car de cette manière, atalmitracham madrichoto bederech yachar lefishoresh nishmato. Le sage peut l'orienter dans la bonne voie selon la racine de son âme, az nitzol mikula. C'est alors qu'il est sauvé de tout. Alors, il y avait également en parallèle une autre histoire tirée de la Guémara, quelqu'un qui va dans la forêt et qui a peur de tomber dans les fosses et dans les épines. Ça, c'était le premier aspect, c'est domem et tsomer. Et puis après, quand il voit une torche, alors il est sauvé également des brigands. Et quand il est sorti de la forêt, quand l'aube se lève, alors il est sauvé de tout. Alors, l'aube qui se lève, c'est la rencontre avec le Talmid Chacham lorsqu'il commence à parler de ses problèmes. Azai nitzol mikulam, c'est alors qu'il est sauvé de tout. Alors remarquez donc que cette rencontre avec le Talmid Chacham, la rencontre avec le tzaddik, c'est pour Rabbi Nachman l'équivalent de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant le psychologue. Avec cette différence, c'est que le psychologue, il a simplement étudié la psychologie. Mais là, ce que le tzaddik connaît, il connaît la racine de l'âme de chacun. On peut dire qu'il faut avoir l'intuition de qui est la personne que l'on a en face. C'est-à-dire, il y a un conseil qui peut être très, très bon pour une personne, mais qui est très mauvais pour une autre personne. Donc, c'est là l'importance de la rencontre par la parole. Qui kodem sheidvada, car avant d'avoir fait son vidouille, son aveu, afalpi sheaya etzelatanit racham venatan lo mamon, bien qu'il a déjà vu le Talmid Chacham, il est dans sa maison. Il a donné la tzedaka. Adain eno yodea be'ezederech ume'alech. Il ne sait toujours pas dans quelle voie se rendre. Kiyesh derech yashar lifneish v'acharita d'archemavet. Car comme dit le livre de Michelet, il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais qui l'amène au chemin de la mort. Aval keshi'igia lefarashat derachi. Mais lorsqu'il arrive à la croisée des chemins, la Guémara nous dit que la croisée des chemins, c'est soit le Talmid Chacham, le sage, soit le jour de la mort. Ce qui veut dire, quand on expose ses problèmes au Talmid Chacham, azay nitzol mikulam, c'est alors que l'on est sauvé de tout. Et cela est valable à chaque fois que l'on vient de, que l'on vient, vient devant le Talmid Chacham et qu'on lui raconte tout ce qu'on a dans le cœur. Or, le Talmid Chacham est une dérivée de Moshe. Shehu Bechinat Ain, dont la nature est le néant. C'est-à-dire, le Talmid Chacham, le vrai Talmid Chacham, Moshe en tout cas, est celui qui est capable d'annihilation de tout son être. Il est Anav Mikol Adam, le plus humble de tous les hommes. Et c'est quand on arrive à s'annihiler que l'on devient un véritable sage. Kemo Shekatuv, Ve'achochma, Me'ain Timatse. Alors, ça veut dire la sagesse, d'où vient-elle? Mais ça peut vouloir dire la sagesse vient du néant. Il y a plusieurs textes de la Guémara très importants qui disent que la sagesse et la Torah ne peuvent entrer que dans un cœur qui s'annihile, qui ne se considère pas comme quelque chose. C'est-à-dire, si on attribue la sagesse à sa propre intelligence, à sa propre sagesse, alors on reste dans un champ extrêmement restreint. Mais si on est capable de devenir receveur, d'être capable d'être devenir, si vous voulez, un tuyau alors on n'a de par soi-même rien, et c'est alors que l'on peut donner. Et c'est de cette manière que l'on est inclus dans l'infini. Alors, ça veut dire quoi cette histoire d'être inclus dans l'infini? Il y a souvent, chez beaucoup d'hommes, y compris chez les juifs, ce qu'on appelle une soif métaphysique, un languissement spirituel. Et par exemple, chez les bouddhistes, ça entraîne une sorte d'idéalisation du néant, de la mort. Et souvent, dans les universités, on essaye de comparer cette pulsion de néant qu'il y a chez les bouddhistes, on essaie de la comparer à ce qu'on appelle le bitul hayesh, l'annihilation de l'être, qu'on trouve dans le chassidisme. Tout ça parce que c'est les mêmes mots. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. C'est les mêmes mots, mais c'est un autre contenu. Quand chez les chassidim, on parle de bitul hayesh, de l'annihilation de son être, ce n'est pas pour disparaître. C'est pour recevoir son être. C'est-à-dire, je n'ai de véritable être que dans la mesure où je suis capable d'humilité. Si je suis habité d'une humilité totale, c'est alors que je reçois en cadeau mon être. Et donc, c'est là que ma vie a un sens. C'est d'où vient la joie de vivre des chassidim. Pourquoi est-ce que les chassidim ont la joie de vivre? Parce qu'ils ont reçu en cadeau leur être, à partir du moment où on a commencé par le haïn. Le haïn, donc, c'est être inclus dans l'infini, mais ça ne veut pas dire disparaître. Moi, c'est important d'insister là-dessus.
Ah,
oui.
Pas une question.
Allez-y.
Et est-ce que, alors, si j'avais bien compris, il y en a qui accusent le racidisme de sorte de panthéisme, non? Est-ce que c'est...
On peut parler d'un panthéisme racidique. Et alors, il faudrait faire ça la différence entre le panthéisme racidique et le panthéisme spinozien ou le panthéisme extrême-oriental. Mais c'est très joli, mais c'est pas ça qu'il dit ici. Et ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est le désir de s'inclure dans l'infini. C'est-à-dire, j'ai la conscience d'être différent, différent de l'infini, mais j'aspire à m'y inclure. Je tiens à rappeler quelque chose de très important. C'est que d'après le judaïsme, le monde est créé. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Si le monde est créé, ça a une conséquence très importante. Ça veut dire que le monde n'est pas Dieu. Rappelez-vous de ça. D'accord? Souvent, il y a une tendance à la confusion. Mais d'après le judaïsme, le monde est créé, donc il existe. Le monde existe en dehors de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que signifie le mot bara. Bara, qui veut dire créer, vient de l'araméen bara, qui veut dire extérieur. Être mis à l'extérieur. D'ailleurs, c'est un peu le sens du mot existe, ex-ist, en dehors être.
Donc, oui. Selon ça, le racidisme, alors il n'est pas panthéiste, non?
Non, j'ai pas dit que le racidisme n'est pas panthéiste. Il n'est pas seulement panthéiste. Il est à la fois monothéiste et panthéiste à la fois. D'accord? C'est comme disait André Ner, Zichrono Livracha, qui n'était pas un chassid d'ailleurs. Il disait, on a l'habitude de dire que le judaïsme est à la fois, considère que Dieu est transcendant et immanent. Mais André Ner disait que c'est une mauvaise formulation. Il faut dire ça en trois paragraphes. Petit a, Dieu est transcendant. Petit b, et pourtant. Petit c, Dieu est immanent. Le et pourtant est très important. C'est-à-dire le et pourtant signifie, ici, c'est Annie dans le Hain, exactement. C'est-à-dire que le et pourtant veut dire qu'on est conscient de la dimension paradoxale ou disons ambivalente du panthéisme, de juif, si on peut en parler. Bon. Veze Bechinat Zarka. C'est ce qu'on appelle dans les Ta'amim, la cantillation des versets, ce qu'on appelle le Zarka, qui veut dire un jet, quelque chose qui est jeté. Deisderikat Leatar Deitnetilat Mitaman. Elle est jetée vers le lieu d'où elle a été prise. Il s'agit de l'âme. C'est un peu à la manière d'un boomerang. Vous savez, le boomerang, on jette et puis ça revient. Eh bien, c'est ça le zarka, la neshama, et veut revenir, elle a un languissement métaphysique, elle veut revenir à son origine. Shetarzir et amalchut le ensof. Que la royauté, c'est-à-dire la manifestation palpable, reviennent à l'infini. Shu Ratson chez Bechol Aritzonot, qui est la volonté qui se cache dans toutes les volontés. Alors, vous savez que bon, ce processus s'appelle également la Teshuva. Quand on fait Teshuva, on revient. Et quand vous vous rappelez qu'on avait étudié Orot HaTshuva, et dans Orot HaTshuva, on avait mis en évidence le fait que la Teshuva, c'est la moitié du chemin. C'est-à-dire, on ne fait pas que Teshuva. Une fois qu'on a fait Teshuva, on revient au monde. C'est-à-dire, il y a une sorte de va-et-vient permanent. On revient à l'origine, et après on revient à la vie. Et de la vie, on revient à l'origine, et on revient à nouveau à la vie. C'est tout un processus comme ça de va-et-vient. Une sorte d'ascenseur à deux directions. Alors, c'est un peu ce qui est. Alors là, il parle ici du premier mouvement, celui qui nous mène vers le haut. Qui a malchut shubichinat otiot adiburim. Car la malchut, la royauté, qui est faite de lettres et de paroles. Kol ot va ot, dans chaque lettre, melubash ba retson hashem itbarach. Chaque lettre cache en elle une volonté ou la volonté de Dieu. Chez retson hashem itbarach haya, parce que la volonté de Dieu est que telle lettre ait telle forme et une autre lettre a une autre forme. Nimtsa, et donc ça nous amène à conclure, Sheretzonot, Hainut Munata Otiot, que les volontés qui sont les formes des lettres, Hemit Galut Malchuto Itbarach Shemo, sont la manifestation de sa royauté, béni soit-il. Et toutes ces volontés qui prennent la forme de l'être, qui sont les formes, Nimshachim, Retson Ensof, Shenbot Muna, ont pour origine la volonté de l'infini qui n'a pas d'image. Manitou disait que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit, si tu es sage, tu auras des images. Et rendez-vous au Sinaï. Arrivé au Sinaï, elle lui dit, maintenant, sache que tu n'auras pas d'image. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que même les images viennent de ce qui est au-delà des images. Le chol adevarim vayeshut shebaolam, et toutes les choses et les êtres du monde, hem meaotiyot, viennent des lettres. Haïnu mimalchut, c'est-à-dire de la royauté, ki yeshut ou mechamat amalchut, car tout ce qui est être vient de la malchut. Shiratza Akadosh Baruch Hu, Shidgale Malchuto Baolam. Parce que le Saint béni soit-il a voulu que sa royauté se manifeste dans le monde. Valideze Bara et Aolam Me'ain Leyesh. Et c'est comme ça qu'il a créé le monde du néant à l'être. Je pense que Jean-Paul Sartre aurait été intéressé, en tout cas. Vechol Aretzonot, Hainu Atmunot, Vechol Aishut, Hainu Prinat Malchut. Et toutes les volontés qui sont les images et toutes les lettres qui sont des volontés, mais Kablim Chiyutam Miretson et Sof reçoivent leur vitalité de la volonté de l'infini. Kemo She'amu, ainsi qu'on a dit, Bechol Makom Shatamotzek Dulato Shelakadosh Baruch Hu Aynu Malchuto, tout endroit où tu vois la grandeur de Dieu, c'est-à-dire sa royauté, Aynu Aretzonot, c'est-à-dire sa volonté. Sham atamotse anvetanuto hainu retson tsof, c'est là que tu vois son humilité, c'est-à-dire la volonté infinie. Bon, alors, c'est une interprétation assez particulière de ce passage de la Gemara. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Vous savez qu'il y a des rois, et les rois en général sont grands. Et il y a des rois qui ne sont pas grands, mais qui sont très grands. Quelle est la différence entre un grand roi et un très grand roi? Le grand roi, pour faire savoir qu'il est grand, s'éloigne du peuple. Tandis que un très grand roi, pour faire comprendre qu'il est un très grand roi, achète des tomates au marché, et tout le monde voit qu'il est le roi. C'est-à-dire, c'est la grandeur du très grand d'être capable de rentrer dans le plus petit des détails. Là, c'est comme ça qu'on explique en général ce passage de Megillah, Kol makom shatamotze gudulato shekajuchu atamotze anvetanuto. C'est-à-dire, là où tu vois la grandeur de Dieu, tu vois également son humilité. Mais pour Rabbi Nachman, il a un peu inversé ici, c'est le texte. Il dit, là où tu vois la la grandeur de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il règne parmi ses créatures, c'est là que tu dois chercher la dimension infinie qui se cache derrière la création. Or, la création, elle s'exprime par des mots, par des lettres. Ce qui est au-delà de la création est infini et n'a pas de mots, n'a pas de lettres. C'est un grand principe qui revient souvent chez Rabbi Nachman, que les pensées les plus importantes, les plus profondes, ne peuvent pas être exprimées, parce qu'il n'y a pas de lettres pour les exprimer. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, au contraire. Mais ça demande un effort de surmonter les mots. C'est quelque chose qu'on trouve également dans la philosophie moderne, cette tentative de dépasser les concepts. C'est un peu dans la phénoménologie, on trouve ça, cette idée que le concept fait écran avec la chose, la chose conçue. Le signe cache le signifié. Et bon, signifiant, signifié, tout un tas de pilpoulines de ce genre. Eh bien, il y a effectivement cette conscience qu'ont eu les philosophes modernes qu'il manque quelque chose dans le mode d'expression des hommes. Et c'est cette recherche donc de l'infini, de l'indéfini, pourrait-on dire. Vézé, Bechinat, oui, je suis là pour vous. Hein.
Oui, deux questions.
Oui,
la
vas-y,
première,
vas-y.
C'est lié à ce qu'on a dit juste un tout petit peu plus haut par rapport à la forme des lettres.
Oui.
Ce que dit Rabbi Nachman ici, c'est peu importe si c'est probable que les lettres soient apparues plus tardivement, cette forme qu'on connaît. Donc...
Ah, les lettres hébraïques que nous connaissons,
ouais.
Historiquement parlant, elles sont venues plus tard. Et alors, la Torah aussi est venue tard.
Donc ça dérange
la
pas.
Torah n'est pas venue avec la création du monde. Il a fallu attendre la sortie d'Égypte pour que la Torah se révèle. Alors, il a fallu attendre encore plus pour que les lettres se révèlent. Peu importe, oui. C'est-à-dire la critique historique comme quoi l'alphabet hébraïque sous sa forme actuelle est tardif, on s'en fiche complètement. Oui, et puis
la deuxième question, c'est selon ce que vous avez expliqué maintenant, les retsonot, donc les volontés, c'est les lettres, ça. Et
oui.
Le retson ein sof, donc la différence, en fait, c'est la, j'ai envie de dire la source quelque part.
Oui, justement.
C'est ça?
Oui, c'est-à-dire que il y a, au-delà de ce qui est dit, il y a ce qui n'est pas dit. Ah, le rabbin Messan a levé sa main. Allez-y. Quelqu'un a une question là.
Ouvrez votre micro, monsieur Messan.
Oui, on ne vous entend pas du tout là. Si vous n'ouvrez pas votre micro.
Oui.
Ah,
oui.
Voilà.
Shalom, barakaoud arabe.
Shalom, shalom.
Merci pour ce cours, c'est très intéressant. Hein. Oui. Je voudrais savoir, nous parlons de l'annulation de soi, ou Bitul Haesh.
Oui.
Tout le travail, je crois que c'est ça, pour qu'on puisse vraiment faire ce désir qui est d'entrer dans l'infini.
Oui.
Mais concrètement, comment on se l'applique à soi? Concrètement, quoi.
C'est d'une simplicité absolument incroyable.
Incroyable.
Oui, il s'agit tout simplement de l'humilité. C'est quoi l'humilité? De ne pas s'attribuer à soi-même ce que l'on a. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense souvent que l'humilité, c'est de ne pas savoir qui on est, au contraire, quand on sait qui on est, mais qu'on sait que ça ne vient pas de nous-mêmes, que ça nous est donné, c'est là qu'il y a une véritable humilité. Voilà. Et quand il y a humilité, il y a le Bitul Haesh. Maintenant, on peut être aidé à cela par justement la rencontre avec le sage dont parle ici Rabbi Nachman. Voilà. Bon, alors nous allons continuer. Vezé Bechinat Itpashtut HaGashmiut. C'est là que ça veut dire se débarrasser de son enveloppe corporelle, qui que Sherotse, l'Ikalel Birtson Ensof, car quand on veut être inclus dans la volonté infinie, ça rire Levatel et Tayeshut Shelo, il faut annihiler son propre être. D'ailleurs, il y a un petit problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut parler de choses dont on ne peut pas parler. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux exprimer par des mots mon désir d'être inclus dans l'infini qui n'a pas de mots. La réponse est très simple. Je peux parler de ce dont on ne peut pas parler parce que je viens de là-bas. C'est-à-dire, si on se rappelle que l'on est qu'avant d'être, nous n'étions pas, alors cela devient possible. Je pense que chacun de nous se rappelle très bien que il y a eu un moment de la vie où il a eu la conscience d'exister. Et nous savons tous que notre mémoire en arrière ne revient pas plus en arrière. Ça veut dire que nous savons qu'avant d'être, nous n'étions pas. Et c'est ça qui nous permet donc de nous relier à l'infini. Et là, il amène à nouveau des interprétations qui vont dans ce sens. Ce que nous allons voir là maintenant, ce sont des différents passages du Zohar, de la Gemara, etc., qui sont exprimés de cette manière. Vezé shekatou bazohar, c'est pour ça qu'il est dit dans le Zohar, shistalkut Moshe, beshabbat, besha'ata de mincha. C'est pour ça qu'on dit que quand Moshe a quitté ce monde, c'était à Shabbat, au moment de la prière de mincha, c'est-à-dire Shabbat après-midi. Qu'est-ce qu'il y a le Shabbat après-midi? She'az hitgalut rava de ra'avin, parce que c'est le moment où se manifeste la volonté des volontés, shu'ubichinat retzon et sof, qui est la volonté de l'infini, she'kol ha'retzonot mekablim chiyuta mimenu, car toutes les volontés reçoivent leur vitalité de lui. Or, c'est comme c'est parce que Moshe a annihilé tout son être que Moshe Katour, ainsi qu'il est dit, Venachnu ma, que sommes-nous? Moshe a dit effectivement, Venachnu ma, qu'est-ce que nous sommes? Ce qui veut dire qu'il ne ressentait pas son être. Veze Perouche, et c'est pour ça qu'il est dit, Vaikbor oto bagay. Il l'enterra dans le vallon. C'est Gvezeh Bechinat Aïn, ce qui veut dire qu'il est arrivé au néant, Kemoshe Katouv Kolge Yinase, car il est dit que tout vallon s'élèvera. Be'eretz Moav, dans le pays de Moav, c'est la suite du verset, Zeh Bechinat Malchut. C'est le mot Moab veut dire la royauté chez David ba mi Moab, parce que David qui est le roi idéal est d'origine moabite. Chez Nistalek Moshe betor en sof betor retzon haretzonot betor rava de ra'avin, car Moshe a disparu dans l'intériorité de l'infini, dans la volonté des volontés. Chez ubichinat retzon en sof amitlabesh baretzonot, qui est cette manière de la volonté infini de s'habiller de s'introduire dans les volontés, bitmunat otiyot, dans les formes des lettres, bifrinat malchut, qui sont la royauté, que Moshe Kato, ainsi qu'il est dit, bechol makom shata motze gdulato ainu malchut, bifrinat ra'avin, là où tu trouves sa grandeur, qui est la malchut, qui est la volonté, shamata motze ra'ava, ratson en tsof. C'est là que l'on trouve la volonté infinie. Vezehu mul bet peor. C'est pour ça qu'il est dit que Moshe a été enterré face à bet peor. Bet peor, vous savez ce que c'est? C'est l'idolâtrie dans laquelle sont tombés les enfants d'Israël peu avant la mort de Moshe. Ki amru chachamenu zichronam livracha, parce que nos sages ont dit, lama nikra shemo peor. Pourquoi est-ce que cette idolâtrie est appelée peor? Al shem shepoer piv. Parce qu'il ouvre la bouche. Peor, il ouvre. Qui, keshepogvim ba malchut, parce que lorsque l'on porte atteinte à la royauté, azyesh lo koach lifor piv, betzirufim raim, c'est alors qu'il a la force, le peor, d'ouvrir sa bouche dans des associations mauvaises, c'est-à-dire des mots qui sont formés des lettres du mal. Aval moshe, shetiken midata malchut, et comme Moshe a réparé toute la midat amalchut, c'est-à-dire la royauté, le peor n'avait pas d'emprise sur lui. Et c'est pour ça qu'il est dit, personne, aucun homme n'a connu sa sépulture. Afilou Moshe le yada, même Moshe ne le savait pas, kinit batel et gabé ensof. Parce que Moshe a été inclus dans l'infini. Mais tout cela n'est vrai que lors de sa disparition, lors de sa mort. Lorsque Moshe est mort, il s'est inclus dans l'infini. Aval bevadai, gam bechayav ayelo itpashtut agashmiut. Mais en vérité, même de son vivant, il était débarrassé de son enveloppe matérielle. Vaya medabek atzmo beor ensof. Et il adhérait à la lumière infinie. Mais ce débarrassement, ce dénudement se faisait à la manière des Chayot, les Chayot, ce sont les anges supérieurs, vont en courant et en revenant. C'est-à-dire un va-et-vient. C'est-à-dire, contrairement à ce qui s'est passé lors de la mort de Moshe, où Moshe disparaît et s'inclut dans l'infini, lors du vivant de Moshe, il se reliait à l'infini, mais se séparait à chaque fois. Il y avait une sorte de va-et-vient permanent. Qui a Kadosh Baruch Hu rotze ba'avodatenu, parce que Dieu veut notre service. Kemo shekatuv, comme il est dit, avita tehila migushe afar. Tu désires être loué par des mottes de terre, mikerutze chomer, formées de glaise. Uvishvilze tsarir shelo yishaer ken. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas rester collé à l'infini. Et là, adet shi'avo Kadosh Baruch Hu be'atzmo v'yitol nishmato. Et il faut attendre que vienne le moment où Dieu lui-même prenne son âme. C'est-à-dire qu'il y a ici un avertissement d'éviter, on pourrait dire, le suicide spirituel. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au moment de sa mort, alors on peut, à la manière de Moshe, rentrer dans l'infini. Mais dans la vie terrestre, il faut y rentrer et en sortir, rentrer et sortir. D'ailleurs, ça, il y a un texte, j'ai ramené ça une fois dans la paracha de Vaetranan, lorsque les enfants d'Israël entendent la voix de Dieu au Sinaï. Alors, ils disent à Moshe, Ayom azerainu ki daber Elohim et Adam vachai. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et que l'homme reste vivant. Ve'ata la manamu. Alors, pourquoi mourir? C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous pensions qu'il était bon de mourir pour rencontrer Dieu, qui ne voudrait pas rencontrer Dieu. Mais si on peut le rencontrer dans la vie, alors la mort devient inutile. Et parfois, nous voyons qu'un homme est pris d'enthousiasme au milieu de sa prière. Et qu'il récite quelques mots avec grand enflammement, avec une grande flamme. D'où ça vient? Zebechemlat Hashem Allah. C'est la pitié, la compassion de Dieu pour lui. Sheniftachlo Orensov Veirlo. Que la lumière de l'infini s'est ouverte pour l'illuminer. Urcheroea Adam Itnotsetsut Kazot. Et lorsqu'un homme voit une telle illumination, Afalgav dehu lo haze mazale haze, même si lui-même ne voit pas, sa racine le voit. Techef nitlahev nishmato lidvekut gadol. C'est alors que son âme est enflammée d'un grand désir d'adhésion, ledabek et atzmo beor ensof, de s'attacher à la lumière de l'infini. Urshi ur itgalut ensof. Et selon la mesure de la révélation de l'infini, en fonction du nombre des mots qui se sont ouverts et ont rayonné, kol elu atevot omer bidvekut gadol, c'est pour ça qu'il récite tous ces mots-là avec grand emportement, grand enthousiasme, ou vimsirat nafsho vitul kochotav. Et avec la disposition de donner son âme et d'annihiler ses forces. C'est très chassidique ce que nous lisons là, n'est-ce pas? C'est la centralité de la prière chez les chassidim et de la joie dans la prière. Et lorsqu'on s'annihile par rapport à l'infini, c'est alors qu'on est comme ne pas savoir qu'on est un homme. Chez Afilu Hubeatsmo et Noedameatsmo, il ne sait même plus qu'il est lui-même. Avalzot Abechina, mais cette manière d'être, Tsarich Liot Ratso Vashov, doit être une manière que l'on court, mais on revient. Kede Sheit Kayem Yeshuto, afin que son être soit préservé. Nimtsa Keshu Bifrinat Vashov, et donc quand on revient au monde d'ici-bas, Azay Tsarich Larot Gam Ledato, il doit donc savoir qu'au moment où il était adhérent, son intelligence a été annihilée, ainsi qu'il est dit, il n'avait plus la connaissance. Et lorsqu'il revient chez Shav Yeshuto, quand on revient à son être, Az Shav Da'ato, c'est là qu'on revient à l'intelligence. Ur Sheshav Da'ato, et lorsqu'on revient à son intelligence, Az Uyodea Achdut Ainsov et Tuvo, c'est alors qu'il peut avoir la conscience de l'unité de l'infini et de sa bonté. Ve'azai En Chiluk Ben Hashem Le Elohim. C'est alors que l'on comprend qu'il n'y a pas de différence entre Hashem et Elohim, ben midat tadin, le midat arachamim, entre la rigueur et la miséricorde. Ki be'en sof, en shaya chas v'shalom shinui ratzon, parce que dans l'infini, il n'y a pas, que Dieu préserve, de différence de volonté, de changement de volonté. Ki ha'shinuim eno ela b'shinui atmunot, car les différences, ce n'est que dans la différence des images. Aval al-ide advekut shel adam be'en sof, mais lorsqu'un homme est lié à l'infini, chez Sham en Shinui Ratson, et là-bas il n'y a pas de changement de volonté. Kisham Ratson Pashut, car il n'y a qu'une seule volonté simple. Et après, il reste une trace de cette unité. C'est-à-dire, au moment où l'on est dans l'infini, on a la conscience de l'unité absolue de tout. Quand on revient à sa conscience, alors il reste une trace. Vahakar Nasa Bifrinat Vashov, et c'est là qu'on revient. Az azaya reshimu mar'e la da'at sheyada shekulo tov vekulo echad, et cette trace nous permet de comprendre que Dieu est totalement bon et totalement un. C'est-à-dire que même quand il y a la rigueur, nous sommes dans l'unité. Vous voyez qu'on se rapproche de l'explication du verset Anochi Hashem Elohecha. Je suis toujours le même. Veze she'amar Moshe l'edoro, c'est pour ça que Moshe a dit à sa génération, tu as été amené à comprendre que Hashem, c'est Elohim. Qui Moshe ou Bichinat Aïn? Parce que Moshe en lui-même ressemble à l'infini. Vedoro advukim elav, raoui lahem la da'at. Et la génération qui est liée à lui doit avoir la connaissance. Haïnu lehaïr la da'at, Bichinat ensof. C'est-à-dire, il faut illuminer la connaissance par l'aspect de l'infini, Bechinat Rava de Rahabin, qui est la volonté des volontés, Bechinat Hashem Hua Elohim. Est-ce possible de s'annuler une heure ou moins dans la journée, ressentir la Dvekut Hashem? Oui, ça peut se faire. Je sais pas, une heure, c'est beaucoup. Mais il y a ce qu'on appelle l'Aïd Bodedout chez les Chassidim de Braslav. Pour eux, c'est quelques minutes, hein, l'Aïd Bodedout. Et alors, en tout cas, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a, dans la rencontre avec le Talmid Chacham, vous voyez qu'il a été très loin, Rabbi Nachman. On a rencontré le Talmid Chacham, on lui a raconté ses problèmes, on a donné la tzedaka, etc. Et puis, le Talmid Chacham a la capacité qu'a Moshe de relier sa génération à l'infini. Et, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Le share screen a disparu. Bon. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à ce qu'on appelle le ratso vachor, se rapprocher et s'éloigner simultanément, de perdre son intelligence et de retrouver son intelligence. À partir de là, dans le texte, Rabbi Nachman doit nous expliquer un passage de Rabba Bar Bar Chana tiré de la Gemara dans Bava Batra, et ce passage en araméen sera l'illustration de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et ça, on le continuera donc de Zrat Hashem la prochaine fois. Shalom.